Je vais encore continuer à prier et louer le Seigneur avec vous. Seigneur, sois béni et glorifié, sois honoré, exalté, Seigneur, que nos cœurs soient remplis de cette reconnaissance pour ton sacrifice à la croix, et que l'enseignement que tu nous apportes maintenant, eh bien, soit effectivement celui qui est nécessaire à nos âmes, celui qui va nous édifier, celui qui va, Seigneur, te glorifier dans nos cœurs et de là, dans nos vies et de là encore, dans ce monde. Sois béni, Seigneur. Amen. Ceux qui ont suivi la semaine de prière connaissent bien le thème, hein, puisque nous avons, à travers toute cette semaine, parlé de notre propre migration, pèlerin, étranger, voyageur sur la terre. C'était le thème qui a été développé pendant toute cette semaine, de dimanche au dimanche. Alors, aujourd'hui, c'est la conclusion de tout ce parcours où nous avons retrouvé, eh bien, le premier qui est parti de là où Dieu lui a demandé de quitter pour aller là où Dieu lui montrerait, c'est-à-dire Abraham. Et puis, nous avons été avec Joseph. Lui, ce n'était pas une migration volontaire, c'était à travers une attaque sur sa personne, mais combien le Seigneur s'est glorifié dans sa vie. Et puis, il y a eu Ruth. Elle, c'était encore différent, puisque c'est parce que, au départ, il y a eu une famille qui a été cherchée ailleurs que dans son propre pays, la maison du pain, hein, Bethléem, qui est partie de Bethléem pour aller à l'étranger. Et là, eh bien, finalement, cette famille a tout perdu, mais par contre, en décidant de revenir à Bethléem, eh bien, Naomi, qui avait eu un bon témoignage auprès de sa belle-fille, l'a amenée avec elle, et ce n'est pas elle qui a dû la forcer, c'est Ruth qui vraiment a accepté et est entrée dans cette pensée de partir de son pays d'idolâtrie pour aller rejoindre le pays de la promesse, elle aussi s'attacher à l'Éternel. Rappelons-nous toujours cette parole absolument centrale du petit livre de Ruth, hein. Ne me presse pas de te quitter, hein. Là où tu iras, j'irai, là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vivras, je vivrai, là où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. La parole de Ruth. Jusqu'à la mort, le don total de sa vie. Ruth. Et puis, il y a eu encore d'autres exemples. Et hier, c'était Aquilas et Priscille. En fait, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un couple qui apparaît, qui n'est pas mentionné beaucoup, et qui pourtant a un rôle clé dans l'édification des églises à Corinthe, et puis ensuite plus tard à Rome. Aquilas et Priscille, qui étaient des juifs pieux, qui ont reçu l'évangile, et qui ont mis leurs biens, leurs connaissances, leurs maisons à la disposition de l'apôtre Paul, tout d'abord, et ensuite de l'église, qui se réunissaient dans leur maison. Mais ça a été aussi des migrants, puisqu'ils ont été persécutés à Rome. Les Juifs, en général, ont été expulsés de Rome par un empereur. Et donc, Aquila et Priscille s'étaient retrouvés à Corinthe. Et ensuite, on les retrouve à nouveau à Rome. Et partout où ils allaient, en fait, ils avaient la même attitude et la même disposition pour servir Dieu, ce qui fait que, eh bien, l'Église se constituait aussi autour d'eux. Et ils ont même pu enseigner plus précisément un homme qui était pourtant versé dans les Écritures, Apollos, et c'est grâce à eux qu'Apollos a pu mieux comprendre l'Évangile et devenir très utile aux églises également. Voilà, aujourd'hui, eh bien, nous revenons avec le texte de ce jour à celui qui a fait la plus grande migration de tous, hein, c'est-à-dire le Seigneur lui-même, puisque le Seigneur a quitté son ciel de gloire, traversé. Alors, où se trouvait la place, où se trouvait le Seigneur avant qu'il ne vienne, quand on pense à l'immensité de l'univers? Eh bien, le Seigneur a traversé les cieux pour venir passer quelque temps parmi nous, mais quelque temps qui ont été déterminants pour que nous puissions ensuite repartir nous aussi avec lui auprès du Père et avoir une place préparée par lui. Le commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole créatrice, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'était Jésus-Christ, bien sûr. Et à un moment donné, donc, verset 14 de l'Évangile selon Jean, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En venant dans ce monde, le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, nous a permis de contempler la gloire de Dieu, qui était l'attente des prophètes, qui était ce que Moïse lui-même désirait. Et dans l'Ancien Testament, c'est bien la gloire de Dieu qui est le cœur de la révélation. Dieu se révèle à travers sa parole qu'il donne, ses commandements qu'il donne à Moïse, et à travers la gloire qu'il manifeste d'une façon bien particulière à travers une nuée. Et si nous lisons donc l'Exode, hein, au chapitre 33, verset 18, nous voyons, mais même auparavant, parce qu'il faut comprendre le contexte, Dieu a appelé Moïse, il est écrit au verset 11 du chapitre 33 que l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple. » Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même ni brebis ni bœufs, qu'ils ne pèsent pas près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre, et se prosterna. Ce moment tout à fait particulier, exceptionnel, extraordinaire, lorsque Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, accepte de passer devant son enfant, devant son serviteur Moïse. Mais vous voyez comment il passe. Alors qu'il est le Dieu de gloire qui ne peut pas être vu, sinon l'homme meurt, il passe en proclamant sa miséricorde. Il passe en proclamant sa grâce. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Voilà, voilà Dieu quand il se présente à nous. C'est ainsi qu'il s'est présenté à Moïse et c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, il nous a révélé sa gloire. Lorsqu'il est venu dans ce monde, il est venu pour nous faire connaître sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, sa fidélité, le pardon total de nos fautes. Sans que le péché de l'homme soit négligé. Car Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité. Mais vous voyez la disproportion qu'il y a entre la punition qui peut se reporter sur 3 et 4 générations et la miséricorde qui, elle, se prolonge jusqu'à 1000 générations. Génération. Parce que Dieu est constamment miséricordieux, c'est sa nature d'amour, c'est là où il veut se manifester à nous, dans sa miséricorde, mais il ne veut pas que nous pensions que nous sommes justes devant lui, ou que nous n'avons pas à rendre compte de nos fautes. C'est parce que nous sommes pécheurs et repentants devant lui et humiliés devant lui qu'il peut manifester toute sa bonté et toute sa fidélité envers nous. Et cela, c'est le message de l'Évangile hein, de la repentance et de la foi en Jésus-Christ. Le christianisme est fondamentalement une révélation de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Je lis ici le texte. La gloire de Dieu se révèle dans la parole de Dieu faite chair, le Fils unique du Père, plénitude de grâce et de vérité. C'est le grand message de la foi chrétienne. Moïse a vécu une rencontre transformatrice avec le Dieu de gloire, parce que lorsque justement nous lisons au chapitre, donc la suite en fait du texte, hein, versets 8 à 10, donc Moïse, quand il se prosterne, dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. Car c'est un peuple courroide, pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Et quand les disciples, donc, ont vu la gloire de Jésus, la gloire de sa miséricorde, tous les miracles qu'il accomplissait, donc, pour montrer la bonté et la fidélité de Dieu envers le peuple, eh bien, ils ont saisi vraiment que pour eux aussi, il y avait un temps nouveau, que ce n'était plus le temps de l'ignorance, ce n'était plus le temps du péché, mais c'était le temps de la vie nouvelle par l'Esprit que Dieu pouvait communiquer. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 12, nous voyons que voilà, les apôtres tout d'abord, mais aussi les chrétiens, les premiers chrétiens, ont acquis une nouvelle révélation de Dieu. Ils sont devenus capables de comprendre Dieu, sa volonté, sa justice. Donc je lis. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Moïse devait connaître les choses que Dieu avait préparées pour lui, et c'était cette capacité, cette puissance pour accomplir des miracles, des prodiges. Ça, c'était ce que Moïse a reçu, et puis de transmettre la loi au peuple. Mais nous aussi, nous recevons quelque chose de bien particulier lorsque Dieu se révèle à nous, lorsqu'il nous fait grâce, lorsqu'il nous fait miséricorde. Nous recevons la capacité de connaître les choses de Dieu, de connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Nous entrons dans une nouvelle connaissance de la vie qui n'est plus fondée sur les raisonnements de ce monde, mais sur les pensées de Dieu, sur sa fidélité envers nous, sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur sa vérité. Tout cela nous est rendu accessible par le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous est donné. C'est une véritable transformation. Et alors, le peuple d'Israël, lui, dans le désert, était constamment en difficulté par rapport à cette révélation de Dieu. Mais finalement, il a vraiment connu Dieu dans sa miséricorde, parce que même si le Seigneur exerçait des jugements envers le peuple qui murmurait, qui était rebelle, eh bien, également, il lui manifestait en permanence sa fidélité, sa miséricorde. Il le ramenait, après avoir exercé certains jugements, il le rétablissait et il lui faisait grâce de ses offenses. Donc à présent, la grâce du salut que nous connaissons en Jésus-Christ, en l'Église, eh bien, nous pouvons en saisir, nous devons en saisir toutes les dimensions. Dieu désire vraiment nous faire grâce en toutes choses. Cette grâce, je reprends le texte, est offerte par le Fils unique du Père, Jésus, incarné pour pouvoir nous sauver par son sacrifice à la croix. Il est plein de grâce et de vérité qu'il offre à notre humanité pécheresse et rebelle. Ainsi, Dieu montre sa gloire en sauvant les pécheurs par Jésus-Christ. Notre espérance se trouve dans la détermination de Dieu de justifier les pécheurs. Romains 4, verset 4, verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Nous sommes appelés à nous confier dans la grâce que Dieu nous fait pour devenir justes devant lui. Et au chapitre 5, verset 20-21, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. » Le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et à chaque fois que la grâce, que Dieu intervient en grâce dans nos vies, que sa grâce surabonde, eh bien, c'est une vie de justice qui se présente à nous. Nous vivons à nouveau dans et pour la justice de Dieu, et non plus pour la mort, non plus pour le péché. Le Seigneur nous prend dans le péché. Il ne peut pas nous prendre ailleurs. Il ne nous prend pas dans la sainteté, il nous prend dans le péché. Et à chaque fois qu'il nous trouve dans le péché, il désire nous prendre. Il nous prend dans le péché, mais il nous place dans la justice. Il nous, dès l'instant où nous revenons à lui, dès l'instant où nous confessons notre péché, le Seigneur nous replace sur le terrain de la justice. Et il ne nous laisse pas dans les situations de péché, dans les situations de faiblesse. Il nous fait connaître la puissance de la vie nouvelle, de la sainteté, de la vie de justice. Cette rencontre avec la gloire de Dieu et d'ailleurs, la seule façon d'expliquer la propagation de la foi chrétienne aujourd'hui. Des hommes et des femmes sont transformés par la gloire de Dieu et veulent que d'autres expérimentent la même chose. C'est pour cette raison que nous pouvons envisager avec espérance l'avenir de l'Église, parce que Dieu a décidé que sa gloire serait connue de toutes les nations et que son Fils unique serait annoncé à chacun. Nous prions pour la meilleure raison qui soit, que Dieu manifeste sa gloire en sauvant les pécheurs. Et c'est précisément pourquoi nous pouvons être certains que nos requêtes seront entendues par notre Seigneur Jésus, parce qu'il a décidé de sauver des pécheurs. Le Fils de l'homme est venu afin de sauver ce qui était perdu. Donc, chaque fois que nous saisissons ce message du salut et de la grâce de Dieu, eh bien, Dieu nous fait réellement grâce de nos offenses. Pour les conséquences de nos péchés, nous lui faisons confiance. Il s'en occupe. S'il doit avoir dans notre vie quelque chose qui, voilà, qui nous suit un peu pendant un certain temps de la conséquence de nos péchés, eh bien, Dieu fera comme il doit faire, mais foncièrement, nous pouvons être sûrs qu'à partir du moment où nous sommes revenus à lui, il nous fait grâce et il nous accorde, il nous regarde comme justes devant lui. Alors, nous allons prier et je vous invite vraiment à prier en étant reconnaissant. En étant reconnaissant de ce que Dieu vous a choisi pour porter sa gloire, la gloire de sa miséricorde, de la ressentir dans votre vie et de la transmettre à d'autres. Vous connaissez sa miséricorde et donc ça veut dire que Dieu vous a choisi et c'est un privilège qu'il vous a fait. Et donc vous, vraiment, exprimez cette reconnaissance à Dieu, s'il vous plaît, frères et sœurs, comme l'apôtre Paul pouvait le faire. 1 Timothée chapitre 1 verset 14 à 17, lorsqu'il dit donc, dans Corinthiens aussi, il dit qu'il n'est pas digne d'être appelé apôtre parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu, hein. Mais 1 Timothée 1, 14 à 17, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. L'apôtre qui a obtenu miséricorde dit que cela lui a été accordé pour servir d'exemple à tous ceux qui croiraient ensuite. Donc, nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que sa miséricorde nous ait également été rendue accessible. Et le glorifier pour l'abondance de sa grâce et de sa vérité. Hein, parce qu'il n'a rien retenu, il est toujours prêt à nous donner en abondance de cette grâce. Et encore maintenant, même donc lorsque nous avons des temps d'incrédulité, des temps de, parfois même de rébellion, hein, le Seigneur nous multiplie ses faveurs et ses grâces. Alors bien sûr, aussi vous pouvez lui demander pardon. Tout simplement, je dirais deux choses. Toujours demander pardon à Dieu de ce que nous ne soyons pas encore capable de bien communiquer son salut en tant qu'Église et personnellement. Combien de fois nous sommes dans des situations où nous ne savons pas comment transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Eh bien, demandons pardon à Dieu de cela. Mais aussi, pardon lorsque nous donnons, on peut dire, du crédit aux situations de péché. Lorsque nous les admettons comme si elles restaient inévitables, demandons pardon à Dieu de cela, car il n'est aucune situation de péché qui ne puisse être changée. Aucune. Si elle ne change pas ces situations, c'est qu'il reste dans nos cœurs de l'incrédulité, de l'acceptation de finalement du mal. Et donc, humilions-nous devant Dieu de ce que nous ne soyons pas parvenus à une foi entière qui lui permette de réellement nous libérer de toute situation de péché. Et puis, prions, vraiment demandons à Dieu que nous ne retenions pas sa gloire, que nous ne retenions pas sa miséricorde, en cessant de témoigner, premièrement, en cessant de prier. On peut dire qu'à chaque fois que nous cessons de témoigner, nous retenons la miséricorde de Dieu. À chaque fois que nous cessons de prier, nous retenons la miséricorde de Dieu. Et à chaque fois que nous n'avons pas foi, que Dieu continue de faire connaître sa gloire dans les nations en paix ou troublées. Et c'est là que nous sommes souvent pris en défaut. Quand nous voyons les événements qui se passent dans le monde, que ce soit, il y a deux grands domaines. Il y a le domaine de la vie morale, des mœurs, des nations, la manière de vivre des gens de ce monde, et il y a le domaine de la guerre, de la persécution, des troubles, de tout ce qui donc laisse entendre que nous sommes que le diable en fait dirige les nations. Et bien dans ces deux grands domaines, nous ne devons jamais oublier que Dieu continue d'être à l'œuvre pour sauver les pécheurs. Le Seigneur continue d'appeler à lui au sein d'une société immorale. Le Seigneur continue de faire prendre conscience, de libérer, d'amener devant lui des personnes qui ont une vie détruite par le péché, par une mauvaise conception de la vie. Le Seigneur continue de sauver des drogués, des homosexuels, des gens pervertis. Le Seigneur continue de faire cette œuvre-là. Elle n'est pas finie, cette œuvre-là. Le Seigneur continue de libérer des gens qui ont des mœurs qui ne sont pas telles que le Seigneur a voulu. Ça, c'est un grand point. Et le deuxième grand aspect, c'est que dans tous les régimes du monde et dans tous les contextes, là où il y a la persécution, là où il y a la guerre, là où il y a l'exil, le Seigneur appelle de ses enfants et utilise même de ces situations pour amener à lui ceux qui ne le connaissent pas. Et dans les pays les plus hostiles à la foi chrétienne, des églises s'établissent, des églises se développent, et cela, le Seigneur le sait, et ceux qui sont sur le terrain aussi à aider et à soutenir l'Église le savent. L'Évangile continue d'être répandu dans les pays, que ce soit en particulier, il y a de grandes religions qui actuellement sont hostiles à l'Évangile, c'est l'hindouisme d'une part, hindouisme, bouddhisme, et d'autre part l'islam. Eh bien, dans ces pays de ces traditions, il y a beaucoup d'enfants de Dieu maintenant, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent l'Évangile et qui se convertissent. Le Seigneur continue de sauver. Et puis dans ceux qui nous arrivent à travers l'immigration, il y a eu beaucoup qui ont été gagnés, qui ont reçu le message de la grâce de Dieu et qui sont maintenant au Seigneur et intégrés dans des églises ou qui en forment de nouvelles, parce que le Seigneur continue à appeler à lui, à faire grâce, à répandre sa miséricorde. Donc, demandons au Seigneur d'être de ceux qui ont la foi et qui donc, de ce fait-là, bien sûr, travaillent aussi à permettre que le Seigneur se sauve dans toutes ces situations, que ce soit en soutenant des missions ou en allant nous-mêmes à la rencontre de ceux qui arrivent dans nos pays. Voilà, On va avoir ce temps de prière. Hein. Et, eh bien, choisissez vous-même si vous voulez plutôt confesser, si vous voulez plutôt glorifier le Seigneur de cette miséricorde qu'il a eue envers vous, et ou alors de ceux qui intercèdent pour que se poursuive le témoignage, la prière et la contemplation de l'œuvre de Dieu.